Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec deux grands spécialistes de sens, de comment on dit déjà, des exégètes.
Exégètes.
Ou de Dieu, sens. Ça me va aussi.
Dieu, ça me va bien.
Oh,
ça
serait
bien. Eh bien, nous sommes avec Dieu numéro 1. Maxime, ça va, Dieu?
Oh oui, ça va.
La pêche?
La pêche, moins depuis que je suis aux toilettes.
D'accord. Oh putain, quel
Son humour, dieu du bon goût.
Son humour est d'une classe internationale. Nous sommes également avec Morgane.
Je vais faire ce que je peux pour attraper. Bonjour.
Et vous deux donc, l'idée c'est aujourd'hui dans ce podcast de nous présenter les divers errata, je ne sais pas. C'est quand erratum, errata, vous savez ça? C'est au pluriel, non? Il y a erratum,
un erratum,
des errata. Je crois que c'est ça. Donc, vous êtes venus avec un ensemble de corrections apporté à sens au fil des discussions sur les divers forums, à la Silent Drift, les ateliers imaginaires.
Les ateliers imaginaires, surtout.
Mais je crois que toutes les conversations ont été exportées. Et donc, vous êtes venu avec ces errata parce que vous vous êtes dit, mais c'est chiant quand on commence sens d'aller chercher sur les forums à droite, à gauche, tout le
en
bordel.
En fait, c'est une petite FAQ pour tous les MJ qui débutent et qui éventuellement ont des petites questions. Parce qu'en fait, on les voit revenir régulièrement, ces questions-là, sur le forum des ateliers. Quand les joueurs débutent, ils repassent systématiquement par ces checkpoints-là.
Bah oui.
Donc on s'est dit, bon bah voilà, on l'épingle une bonne fois pour toutes. Et puis comme ça, vous les avez sous la main. On en oubliera peut-être. Hein.
Surtout que pour personne qui vient sur les ateliers, il y en a combien qui jouent à 100 sans venir sur les ateliers et qui peuvent se retrouver embêtés. Et pourtant qui écoutent les podcasts.
Donc,
les conseils qu'on va donner, errata et conseils, sont des trucs qui sont venus vis-à-vis de la pratique. Donc ça n'a absolument pas valeur d'évangile ou valeur de quoi que ce soit. C'est juste des petits problèmes qui peuvent survenir. Et du coup, plutôt que de s'embêter à faire des recherches sur les forums, on aurait pu faire un fichier PDF regroupant tout ça.
On va peut-être le faire,
mais bon, on est à La Cellule, donc on s'enregistre en audio pour en parler.
Ouais, non, c'est intéressant. Puis on va pouvoir voir aussi s'il n'y a pas des errata sur les errata, s'il y a des trucs qui sont toujours là. Il y a peut-être des choses qui ont été. Putain, mais merde, quoi.
Alors, oui, on dit.
Ah, le rire de cochonnet. Oh, le petit cochon.
Il est tard, chers auditeurs, va falloir nous pardonner.
Oh, il est mignon. Alors donc oui, non mais tout ça pour dire que éventuellement il y a peut-être des corrections qu'on a apportées sur lesquelles on est revenu après. Moi, je trouve que ça vaut toujours le coup de vérifier, de checker ça à nouveau. Et puis surtout, je ne sais pas ce que vous avez noté, ce que ça contient. Si ça se trouve, il y a des choses qui vont me revenir au cours du podcast. On va en rediscuter. Alors, bah Maxime, on y va, c'est parti. Ça va parler de sens connaissance, de sens mort et de sens néant, on est d'accord.
De toute façon, on va y aller par palier.
Ça,
on a fait notre fiche, parce que oui, on fait des fiches. chronologiquement, c'est-à-dire qu'on commence par la création de perso, ensuite le système de calcul du miroir au départ, ensuite on parle de l'évolution de la répliéoïde, puis on passe à sens mort et compagnie. Donc on a fait quelque chose d'assez chronologique. Donc en fait, s'il y a des trucs que vous n'avez pas envie de savoir, vous vous arrêtez quand on y arrive. Et puis c'est tout, quoi.
Bah, de toute façon, un ensemble d'errata, ça ne peut être valable que pour les meneurs.
Oui.
Je pense pas qu'on va spoiler grand chose avec
c'est,
ça.
C'est clair.
Je vais juste aller chercher mes bouquins. Je te laisse commencer, Maxime.
Très bien. Alors, du coup, pour commencer, la création de perso. Alors, nous, déjà, ça commence pas par un errata, mais par un rappel de ce qui existe et d'un conseil. C'est qu'il existe, vous pouvez très bien suivre le bouquin et lire tout ce qui a marqué au départ, mais il y a des fichiers audio qui ont été faits. Donc, je pense qu'on mettra les liens dans la description du podcast.
On fera ça, oui.
Donc, avec des voix robotiques au départ. Donc, si jamais vous vous sentez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller les chercher. Je crois qu'il y en a eu plusieurs versions. Donc, il faudra qu'on essaie de les retrouver.
Oui, tout à fait. Il y a même une version qu'il faut que je diffuse. Alors, je ne sais pas si ce sera diffusé encore cette année. En fait, le problème, c'est que j'ai énormément de mal. Il y a des versions des fichiers comme ça, son, qui sont ici. Et que je n'ai jamais diffusé. Vous êtes au courant de cette histoire ?
Oui, tu nous en avais déjà parlé.
Et on en a vu un en direct à la semaine sens aussi, avec la musique qui se lance à la fin.
Voilà.
Épreuve indétectée, celle-là, elle est bien cool aussi. Même si la voix, je suis pas fan.
Celle-là, on n'est pas sur. Je crois qu'elle n'est pas encore sur le net. Donc on va la mettre, enfin je vais essayer de la mettre sur internet le plus rapidement possible. Le problème c'est que j'aimerais bien la monter pour pouvoir la diffuser aussi sur YouTube. Donc la monter éventuellement juste avec un titre de sens, tu vois, un truc comme ça. Et pour l'instant j'ai pas eu le temps de le faire parce que en pleine rédaction de Cosmo, je suis vraiment surbooké. Mais il faut à tout prix que je le fasse parce que ça t'as raison, c'est un excellent truc à préciser. C'est vrai que
outil sympathique. Pour
voilà, outil sympathique, le fichier audio. Évidemment, si vous avez pas envie de lire tout l'historique. Je me demande si les deux versions de la guerre des immortels suffiraient pas, parce qu'il n'y a pas tout, mais il y a ce qu'il faut pour commencer.
Alors il me semble qu'il y a tout, il y a l'essentiel.
Il y a, y a le gros essentiel, donc c'est, et puis c'est plutôt.
On l'a testé en convention,
ça fonctionne bien.
Ça fonctionne bien.
Ça fait son effet. Hein.
D'accord.
On leur a balancé les deux d'affilée sur le petit IPC, ils ont regardé et ils ont bien aimé.
Et c'est bon, ils pouvaient jouer direct.
Ils pouvaient jouer direct.
Ils s'en sont bien sortis.
Ça a été fait pour ça à la base, hein, donc.
Alors, je vais donc avant de parler du calcul, peut-être parler des flashbacks.
Donc c'est vrai que juste pour préciser l'histoire de ça, hein, c'est qu'en fait on s'est quand même aperçu rapidement dans Sens Renaissance que ça faisait une masse de lecture énorme pour le meneur de jeu qui commence Sens Renaissance à lire en fait toutes ces histoires de runes détectées et d'histoires. Et donc plusieurs tables se sont dit oui effectivement que ça pouvait être sympa de. Et effectivement pour le meneur de jeu c'est très bien parce que la guerre des immortels ça permet aussi d'apporter un support visuel à des noms, de mettre des visages sur des noms. Moi je me souviens très bien que les premières fois j'ai maîtrisé ce sens dans les conventions, genre une cinquantaine de fois quand même. Hein. J'avais vraiment écumé les conventions avec ce jeu, notamment avec Blue Sky. En fait, ce qui se passait, c'est que les gens n'imprimaient pas les noms parce qu'ils avaient du mal à imaginer en fait. Et donc ils notaient les noms, mais ils galéraient. En plus, comme c'était lu, moi je suis pas, Benoît Alban quoi.
Très vite, il y a des noms qui reviennent et qui s'enrichissent d'autres noms au fur et à mesure de la campagne. Ouais. C'est compliqué quoi.
Donc du coup les noms sur les noms parce que en plus les noms ils ont des relations entre eux donc c'est extrêmement complexe. Avec le support de la guerre des immortels, on a d'abord un super narrateur qui double et ensuite eh ben on a des images en fait qui viennent et ça aide.
Cool. Ouais. Les deux sont même animées dans la version 2.
Oui.
Ouais, et ça c'est cool.
Ça c'est encore mieux.
Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant. C'est un des premiers errata de Sens Renaissance qu'on ait fait, on a vite compris que avec le kit d'initiation qui finalement est aussi quelque part un errata qui a été refait tout à fait,
oui.
Et qu'on n'a pas du tout communiqué ou presque pas communiqué là-dessus.
Bah, mais de toute façon, quelqu'un qui le cherche maintenant, de toute façon, c'est simple. La première fois que tu cherches Sens sur Internet, tu tombes sur le site. Et quand tu veux le tester, t'as un fichier d'initiation
qui a été refait.
Donc c'est bon, il n'y a pas besoin de faire de la communication. Les gens tomberont dessus, quoi.
Mais c'est vrai que ça, c'est important de dire aussi que le alors c'est un drame. Le kit d'initiation a été refait avant ma découverte du Maelstrom.
Ah.
Donc du coup, il y a de fortes chances pour qu'à un moment donné, je sois obligé de refaire un kit d'initiation.
La V3.
Ouais, c'est-à-dire, c'est terrible. Enfin bon, est-ce que le kit d'initiation est déjà, pour quelqu'un qui a fait du jeu de rôle, ou même quelqu'un qui en a vaguement entendu parler, je crois qu'il est déjà apte à amener des gens à jouer à Sens Renaissance. Donc ça fait quand même trois errata à ce sujet, mine de rien. Donc au début de Sens Renaissance, qui était finalement un jeu incomplet, hein, Darky.
Oui, mais qui a été très bien complété par la communauté. Donc, deuxième chose, je parlerai des calculs plus tard. Ouais. Il y a les flashbacks, ça c'est un truc que nous on en a déjà parlé sur le double mejetage, double masterisation, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'était une idée de
Mangelune,
de Vivien. Du coup ça marche super bien, c'est-à-dire qu'au milieu de l'histoire, limite au milieu de la guerre des immortels, vous arrêtez le truc au moment où c'est de la pluie, donc à la limite à la fin de la première
numéro 1, ouais.
À la fin de la numéro 1. Attends,
c'est génial ça. Vas-y.
C'est pas à la fin de la numéro 1, c'est au moment.
Si, le moment où on entend la pluie qui tombe.
Ouais, ça
c'est
ça.
La fin de numéro 1.
Ouais, mais
oui,
non.
Mais non, mais en fait, non, parce que Finlongfinger est pas encore là. Alors que nous, le flashback.
C'est peu de temps après le début de la
On le fait la nuit du 3 janvier 1001. Ah, et oui. Ça marche. Ça, à chaque fois qu'on l'a fait, ça a tellement bien marché le coup de dire voilà, donc tu te réveilles. Tu fais quoi?
Bah, je descends.
Et là, je me lève. Ouais, mais ton lit, il est haut. Je vais à la fenêtre. Ah ouais, mais la fenêtre, elle est haut. Et ils comprennent très rapidement
enfants,
que ce sont des enfants. Et donc, et pour chacun, en fait, en fonction de l'archétype qu'ils ont a priori en pensée en tête, c'est qu'après avoir discuté avec eux, on fait intervenir un PNJ important qui va les sauver cette nuit-là. Pour certains, ils vont croiser le général Finlongfinger. Pour certains, ils vont croiser Gladius Ward. Certains, Maria. Il y en a un qui se fait sauver par Chrysaor.
Attention, Maria, elle fait des choses à ce moment-là.
Ah ouais, elle fait des choses.
Souviens-toi de la remarque de Jérôme. Elle est avec Wilfried à ce moment-là. Alors, on part à moto vers les trucs avec.
Ouais, mais ça, c'est pas dans la base, donc.
Bah, ça le sera bientôt.
Bah, c'est tant pis. Et bah, elle aura fait plusieurs choses.
C'est,
bah,
c'est très bien, puisque de toute façon, avant, attention, ça rentre en aucunement en contradiction avec ce que t'es en train de raconter.
Tu peux faire plusieurs choses le temps d'une nuit.
Voilà, tout à fait. Et enfin.
Ça a été une nuit très longue.
C'est une nuit très longue. Après, on faisait le flashback dans le dans le subséri où ils se rencontrent tous, l'arrivée à la base, tous ensemble. Et là, tout de suite, rien que ça, franchement, ça crée des liens tout de suite avec les PNJ et ça évite le « je crée un perso ex nihilo avec des capas dans un monde qu'en fait je comprends à peine ».
Alors moi, je le faisais, ça, le flashback, pas à ce moment-là, pas si tôt, mais effectivement, lorsque le jeu avait bien commencé après la description de l'univers.
Ça peut être une bonne solution aussi. Oui, disons que c'est un outil de création de personnages qui est très efficace, très utile, qui permet de rentrer dans le vif du sujet, tout en apportant vraiment un côté... Enfin, ça y est, ils l'ont vécu, la tragédie, quoi.
Ils l'ont vécu, la tragédie
du 3 janvier, et ils l'ont bien là.
Et ça évite le blocage sur les faits. D'un coup, il n'y en avait jamais eu de personne qui a été bloquée sur ces faits. Du coup, ils avaient tous quelque chose à dire. Parce que rien que ça, ils ont vécu 2-3 scènes. Bim, ils peuvent créer un perso. Ils peuvent s'imaginer qu'il y a des moments forts dans la vie de leur perso qui les ont marqués.
Putain, c'est génial.
Et du coup, l'immersion, elle est là direct.
Ah, ouais,
tu veux qu'on te fasse jouer le prologue de création de perso?
Maintenant, c'est ça, j'ai envie de jouer ça. Alors,
c'était des conseils. On va arriver aux errata. Déjà, alors, certains ont dû constater que le calcul de pourcentage peut être un peu compliqué. Donc, première errata, ce qu'on conseille, c'est que il y a plusieurs façons de faire. Soit, vous mettez un minimum de 10% dans chaque rune. Et donc, il vous reste 90% à répartir. Pour ce faire, je pense que je vous le mettrai. Il suffit de maîtriser un minimum Excel pour faire un petit fichier où on a juste à rentrer le nombre de faits qui calculent le pourcentage tout seul. C'est franchement très, très facile à faire.
D'accord.
Il suffit de faire des maths de base.
Tu pars sur une base de 10% et après tu répartis le reste.
Exactement.
Entre les...
Exactement.
Ça évite les fameux pourcentages déséquilibrés où tu te retrouves avec un mec à 1% ou
6%. Et puis tu te dis qu'ils ont forcément un peu de tout quand ils commencent. Mmh. Un minimum, mais... Tout le monde a un peu de tout.
Bah oui, effectivement.
Vous pouvez modérer comme vous avez envie. Vous pouvez aussi mettre juste 5%.
Juste un petit truc aussi pour les auditeurs et puis pour les joueurs. Je pense qu'il y a les joueurs qui ont fini sens. Sachez qu'un humain normal dans le sens a 10%, je crois, ou 15%
c'est ce
partout.
C'est ce que tu disais. Un enfant a 5% partout.
C'est ce que tu disais par âge, en fait. Quand t'as 5 ans, t'as 5%. Ouais. Quand t'as 10 ans, t'as 10%. Quand t'as 15 ans, t'as 15%.
Donc vous vous rendez compte, vos joueurs. Enfin, regardez vos personnages. Et maintenant, baissez la tête, regardez vos personnages. Et vous allez comprendre que vous n'êtes pas vraiment.
Mais un truc qui fonctionne bien, une alternative qu'on a eu, j'avais déjà pensé, je l'avais jamais mis en application, on l'a fait avec Jérôme.
Merci.
Ce qui fonctionne bien, c'est de base mettre un fait dans chaque rune de base. Et du coup, ça fait que tu te retrouves
un peu s'inspirer de néant là-dessus.
Et ça fait que même avec un seul fait dans une rune, on se retrouve avec un minimum de 6%, je crois.
Ouais, d'accord.
Ce qui certes, on a l'impression que c'est pas loin de 10%, mais ça permet vraiment d'avoir le sentiment d'avoir un perso qui a une spécialisation dès le début.
Comme ça fait un peu péter les extrêmes. Le perso qui s'est axé sur quelque chose voit cette rune-là augmenter d'un coup et ça met encore un peu plus d'emphase sur la rune en question.
D'accord.
Quoi. Les gens de mort comme moi se reconnaîtront, vous serez encore un peu plus bourrin.
D'accord.
Et ça fait plaisir.
Vas-y, Maxime, je t'en prie.
Et donc, faut pas oublier qu'un fait, du coup, peut concerner plusieurs runes.
Et oui, ah, ça, c'est très important, putain. Voilà.
Un fait peut concerner deux, trois runes.
Mais
et
ça,
vous pouvez même avec négocier. Oui, et en négociant.
C'est dans la base, ça, on est.
Oui, mais nous, en négociant avec le MJ, vous pouvez même dire ce fait compte très beaucoup pour moi.
Ouais.
Ce qui est pas français du tout. Mais ce qui veut dire.
Le français
chose.
Compte pas du tout pour moi.
Voilà. Vous pouvez dire ce fait, il est très important pour moi. Et du coup, on peut dire, eh ben, il compte pour deux ou il compte pour trois.
D'accord.
Genre, je suis quelqu'un de logique. Si vous voulez que ce soit vraiment le centre de votre perso, ben, on peut dire que ça compte pour trois ou quatre faits, quoi. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, nous, on a tout de suite fait un système de, même si c'est pas exactement dans l'esprit, on a fait un système de, pas de négociation, mais à la fin, on regarde le miroir, on fait avec le joueur. Genre, tu penses que ça, c'est plutôt quoi? Ah, c'est plutôt ça et ça. On le fait, donc on rentre les faits sur le petit fichier tout bête qui calcule tout seul les pourcentages.
Ouais.
Et à la fin, on regarde le miroir, on fait, t'en penses quoi? Tu penses que ça correspond à l'idée que t'en avais? Et
il y en a qui disent je le voyais un peu plus Cosmo, je le voyais un peu plus Néant. Alors bon, quand ils disent je le voyais vachement plus Cosmo, on lui dit bah t'as pas mis tant de faits en Cosmo que ça, faudra voilà. Ou alors on dit ah je le voyais un peu plus Cosmo. Bon, si j'enlève un fait ici et que je le remets là, par exemple, ça bouge un peu. Est-ce que tu penses que c'est un peu plus correct?
D'accord. Moi vraiment là-dessus.
Ça fait un peu, voilà maths pour les maths, mais ça crée un truc franchement le. ça marche bien.
Ouais, dans tous les cas, ce qu'il faut bien voir en tête, c'est que en dehors du tableau et des calculs, il faut bien que le joueur comprenne que 1, il y a un lien entre l'effet de simulacre et son miroir.
Bah, ça 2, c'est clair, oui.
L'aiguilleur, et que 2, l'aiguilleur et lui doivent au départ négocier ensemble pour établir ensemble le miroir afin que le joueur ne soit pas frustré de ne pas avoir tel tel. Et très souvent, d'ailleurs, on s'aperçoit quand on fait ça, cet exercice-là, que ça force le joueur à déjà imaginer ce que sont les runes de sang, c'est-à-dire qu'est-ce que le cosmos, le chaos,
etc.
Qu'est-ce
qu'il met derrière,
et au
quels
final,
sont les enjeux,
la philo
etc.,
commence.
Ouais. Hein. Mais nous, on leur décrit. Hein.
Oui, bah oui, mais c'est
nous,
très bien.
Ouais,
oui,
nous,
non,
leur,
mais bien
nous
sûr.
On leur décrit complètement les runes, on leur lit la description des runes du bouquin.
Non, on est bien d'accord, mais c'est-à-dire qu'il va plus loin. C'est-à-dire qu'il va, généralement, quand tu commences à discuter avec lui, à ce moment-là, ça permet déjà qu'il
oui,
aille plus
lui
loin.
Oui, puis il met son propre affect.
Voilà, exactement. Et c'est déjà vachement intéressant, y compris pour la psychologie du joueur, mais aussi pour la psychologie de son personnage.
Bah, puisqu'on en est à la...
Juste du coup, pour en finir sur le calcul des pourcentages, pour l'évolution, du coup, vous avez le choix. Après chaque scénar, nous, ce qu'on a toujours dit, c'est vous écrivez 3 à 5 faits sur le scénar qui vient de se passer, comme dans la base.
Oui.
Et alors, vous avez le choix. Soit vous avez le fichier pas loin et vous remplissez les faits qui vont avec et le miroir se recalcule automatiquement.
Oui.
Soit simplement... en accord avec lui, vous dites, bah, t'augmentes de 1 ton cosmo, 1 ton chaos, 1 ton machin.
Oui.
Ça, c'était ma position. D'accord. Moi, les faits augmentaient de 1... Enfin, dans un maximum de 5. Ouais.
Maxime, le problème...
lui, recalcule systématiquement avec le petit
ouais,
fichier
parce que
Excel.
Sinon, ça fait que les faits de départ, en termes de ratio, ont une importance beaucoup plus, ont beaucoup trop d'importance par rapport au nouveau. Alors que moi, je milite pour que, dans ce sens, un personnage qui vient d'événements traumatiques puisse changer complètement son miroir du tout au tout.
D'accord.
Et que quand il me met d'un coup un événement traumatique et que ce scénar était horrible pour lui, ça le fait déprimer. Ouais, traumatisant. Qu'en gros, si ce scénar l'a fait complètement sombrer dans la déprime, et qu'il me met 5 faits qui ont lien avec la mort, je veux pas qu'il gagne que 5% en mort.
Ouais, je comprends. Hein.
Il gagnera 5 équivalents de faits en mort, et en pourcentage, il va passer à plus, il va gagner 15% d'un coup.
Ouais.
Et les autres runes vont baisser.
C'était
et moi, je trouve ça, et moi, je trouve ça plus rigoureux psychologiquement.
C'était un petit peu l'idée que j'avais, quand je disais que exorciser certains quatrièmes morts dans sens mort, il me semble qu'il y a on gagne de la mort.
Ça, j'ai prévu, j'ai une ligne en plus.
C'est
bonus dans mort.
Ce que j'avais en tête, en
bonus
fait,
dans mort où il gagnait à chaque quadrilla, il gagne soit un en mort, soit en néant.
Mais on va en parler de ça.
Ça, on viendra après, oui. Ouais.
Mais c'est vrai que, et là, on en revient à quelque chose dont on avait un petit peu parlé la dernière fois quand on avait enregistré le podcast sur les défauts de néant. C'est que finalement, il y a aussi beaucoup de choses qui restent à interpréter. C'est pas parce que le système de résolution peut paraître rigide sur ces points-là que, comme Maxime l'a très bien dit, hein, il faut pas considérer qu'un événement soit suffisamment traumatisant pour pouvoir complètement bouleverser. Et d'ailleurs, juste pour le dire, dans ce sens, il y a des PNJ. Non, c'est le cas. Si on prend par exemple l'exemple de Graveur et l'exemple des quadrillas qui font ce fameux
rituel de
je sais plus, c'est pas un duel de larmes, mais c'est la furie.
Et
qui utilise voilà ce pouvoir qui permet de d'un coup de on voit bien qu'ils ont vécu des expériences notamment à la Nouvelle-York le 3 janvier 1001.
Vous voulez qu'on parle de Maria Gridway?
Voilà, ouais, voilà, c'est ça exactement, on est bien d'accord. Il y a aussi Maria Gridway effectivement. Donc en fait, les PNJ trichent un peu avec le système de résolution si j'ose dire. Donc il est normal que les PJ et que l'aiguilleur.
Moi dans ma tête, je l'ai fait évoluer moi Météor, on verra plus tard, mais avec le temps, je le considère qu'il gagne en pourcentage quoi.
Donc très bien, très très bien.
C'est logique.
Ouais.
Donc ensuite, pour la suite de la création de perso, à partir du moment où ils écrivent des faits.
Oui.
Enfin, normalement, vous devez en écrire. Vous en avez 7 de base et vous devez en rajouter 13 pour avoir un total de 20 faits de simulacre.
Tout
on
à
parle
fait.
Pas des faits
ouais.
de cellulis là.
D'ailleurs, dans Cosmo, les faits de simulacre sont appelés les faits du simulacre. c'est parce que justement, je trouve vous trouvez pas ça bizarre, faits de simulacre, vous.
Ça crée de la distance.
Ouais, j'ai appelé ça l'effet du simulacre dans Cosmo. J'ai corrigé un petit peu ça.
Donc, on va continuer à les appeler comme ça. Donc, l'effet de simulacre, en plus des 13, sur toutes mes tables, avec tous mes joueurs, j'ai imposé deux faits obligatoires qui comptent aussi dans le miroir. Un fait secret que le joueur est seul à connaître, et moi et le MJ évidemment aussi, qu'il met entre crochets. Comme ça, quand vous lisez sa fiche, vous savez exactement quel est le fait secret. Vous lui imposez un fait secret. Soit c'est un problème à résoudre, soit c'est une relation sentimentale compliquée, soit c'est quelque chose qui, voilà, qu'il a du mal à s'avouer. Vous pourrez jouer dessus, l'aider à enrichir. Et un fait de lien. C'est le deuxième fait que j'impose. Obligatoirement un fait de lien avec une des personnes présentes autour de la table. J'impose d'emblée un lien obligatoire avec un des cellulistes autour de la table.
Parce qu'en fait, on leur fait lire leur
fait après. Je dis pas que c'est un lien tel que décrit dans Mort et dans Néant. C'est un fait où il parle d'une relation qu'il a avec un des joueurs à la table. Précisément celle-là, histoire qu'il y ait
Un des cellulistes ou d'un des simulacres ?
Un des simulacres. Alors, il faut que les cellulistes écrivent un fait de simulacre où leur simulacre se lie à l'un des simulacres autour de la table.
Voilà, on est d'accord.
C'est oh non, pas oula.
Oh là là.
J'adore Maxime Victor. What?
Attends, mais tu déconnes. Mais voilà, on pourrait. Alors, il y aurait des bonnes raisons.
Spontanément, vous aurez peut-être des joueurs qui vont se lier à tout ce qui bouge autour de la table et qui vous feront un miroir. Enfin, oui, c'est ça. Des fêtes simulacres qui sont entièrement orientés humains, liens, etc. Mais souvent, c'est pas le cas, notamment pour les joueurs qui débutent. Ils sont très axés sur leur perso, sur leurs ressentis, sur les grands groupes ou des grandes idées. Et du coup, j'impose un fait de lien secret. Et ça compte dans le miroir. Et c'est pas mal, je trouve.
Parce que sans, c'est un jeu d'équipe. Et il faut que dès le début, il y ait une équipe soudée. Quoi. Ils se connaissent quand même. Ils se connaissent depuis l'âge de 5 ans.
Ouais.
Enfin, pas forcément soudés, mais au moins une équipe. Quoi,
qu'il y ait des relations un peu spéciales parce que je le respecte parce que c'est un super camarade. Ça va bien 2 minutes. Quoi.
D'accord, ok. En gros, finalement, le conseil que tu donnes là, c'est lié. Il faut que le groupe fasse sens. Quoi.
Exactement. Tout à fait, tu ne pouvais pas mieux résumer.
Au final, qui est ces fameux liens de sens mort qui se retrouvent indirectement introduits.
Et le fait secret, parce que c'est toujours bien d'avoir un petit.
Alors, ça, c'est un conseil, c'est pas un errata. Voilà. Si vous voulez faire ça, ça peut être vraiment sympa. Ok. Moi, j'ai pas testé, donc je vais pas m'engager sur ces trucs, mais connaissant des jeux qui fonctionnent avec ce genre de choses, je pense que ça peut être pas mal. Le fait secret, j'ai une réserve, c'est que je sais pas si c'est tellement le propos de sens que les joueurs aient des secrets les uns pour les autres, mais
c'est pas forcément vis-à-vis d'eux.
Mais pourquoi, pas, pourquoi
ça,
pas.
Souvent, ça se règle d'ailleurs pendant Renaissance. Hein.
Ça me choque pas.
C'est des choses qui se règlent pendant Renaissance.
D'accord, ouais. C'est des
René.
C'est pas des gros secrets genre.
Non.
Ouais.
Voilà. Non, c'est plutôt un secret du genre je suis amoureux de machin, quoi.
D'accord.
Le MJ le sait, mais les autres le savent pas.
D'accord, ok. Voilà. Oui, d'accord, ok. Oui, c'est vrai. En fait, je suis en train de réfléchir qu'on jouait déjà un petit peu comme ça avec la table de reine.
Bah, en fait, c'est tes exemples de parties qui m'ont donné cette
d'accord,
idée.
Oui, d'accord. Voilà. Très bien.
Donc voilà, ça c'est du conseil. Petit errata. Alors, on oublie. Alors, la répliéoïde, ça va commencer. Parce que là, il y a du boulot. honnêtement, la partie, tout ce qui est casque, épaulette, plastron, si ça ne vous inspire pas, si vous n'aimez pas WoW ou Metroid, vous l'oubliez. On s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est qu'ils ont des carrés de répliéoïdes et que ça se voit sur la répliéoïde.
Ce que Maxime veut vous dire, c'est que dans le système tel qu'écrit dans Sens Renaissance, on vous décrit les différentes parties de l'armure répliéoïde, hein, le casque, le machin. Et quand l'armure évolue, le joueur peut choisir d'augmenter son plastron ou son casque ou ses jambières ou ses épaules, etc., qui deviendront plus solides. Voilà.
C'est pas les jambières, justement. C'est ça qui fait bizarre. C'est qu'il n'y a que le casque, le plastron et les épaules.
Mmh. Qui c'est qui a écrit ce jeu-là, Sens Renaissance ?
Je sais pas.
Un mec bizarre.
Je sais pas. Les plastrons, tout ça, je sais pas. Non, ça me dit rien. Non, c'est pas moi, j'ai jamais fait ça.
Voilà.
Je suis innocent, monsieur dame.
Si on imagine, ça veut dire qu'en gros, notre répliéoïde, on peut très rapidement
mettez
se retrouver.
Mettez main derrière la tête et regarde la lumière.
C'est pas moi.
Parce que ça, on peut se retrouver avec une espèce de mec qui a un petit casque, un petit plastron et qui a des épaules géantes. Donc en fait, il se croit avec une armure légendaire d'en haut, ce qui est complètement ridicule. on est d'accord. Et du coup, on a dit non, l'armure c'est classe. Vous l'imaginez comme vous avez envie qu'elle soit. D'ailleurs, je crois que c'est dit dans le bouquin. Donc nous, on a dit qu'est-ce que vous avez envie qu'elle soit? Qu'est-ce que le cellulis a envie qu'elle soit? Et ça, c'est cool. Parce que tu te retrouves vraiment avec des trucs cool. Et après, ils la font évoluer comme ils ont envie, de manière à ce que ce soit logique. Genre, s'ils augmentent les BM, ça va plutôt être un ensemble, plutôt les jambes et le plastron qui vont augmenter, des fois le casque et tout.
Vous prenez pas la tête avec les parties de la réplique.
Voilà,
dites si elle augmente, rajoutez un carré. Et c'est très
et
bien
voilà.
Comme
et quand
ça.
Quand elle augmente d'un carré, faites-le intervenir en jeu. Ça, c'est cool. Quand le carré dit j'augmente d'un carré, on dit ça interviendra peut-être plus tard. Et c'est au moment où il se prend une attaque, son armure, elle se développe, il y a la philonite qui se développe.
Donc
et
on n'a pas la boule morphing, on peut pas. Non. On peut pas, non.
La quoi
et, quand on trouve des objets, ça fait quand même le petit bruit. Non.
Non.
Bon,
Je suis désolé. Ce n'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu de rôle.
Qui c'est qui a écrit ce jeu là?
Cosmo is coming. Hein,
c'est qui l'auteur de Metroid? Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, un mec qui fantasme sur les grosses épaules, quoi.
Je sais pas, il mange des champignons, il saute sur des tortues.
Voilà. Donc, en gros, quand vous avez votre éplioïde, voilà, faites-la évoluer comme vous le sentez. En tout cas, quand vous gagnez un carré, ne vous sentez pas forcé par ces parties-là. Laissez-vous libre les joueurs. Ça me paraît évident.
Ou alors ne le décrivez juste pas.
Ou alors juste ne décrivez pas. Juste, la fidélité est plus résistante, plus solide. Voilà. Fais ce qu'on veut, quoi.
Laissez aux joueurs.
Alors, oubliez pas, au départ, même si ça paraît pas clair, parce qu'il y avait eu un débat au moment quand on avait commencé à jouer, même si c'est pas clair dans le bouquin, je crois que ça l'est. Mais si ça ne l'est pas, sachez que les répliéoïdes tapent blessure mortelle.
Oui, une BM.
Une BM pour commencer, avec ce que vous choisissez. Soit vous leur filez une arme de corps à corps et une arme de distance, soit vous leur filez une seule des deux. Moi, j'aime bien choisir une seule des deux, comme ça, parce que honnêtement, les ratas suivants, c'est que, en toute honnêteté, à part dans certaines situations, la portée des armes, on s'en fout.
Ouais.
On s'en fout complètement.
Ça passe.
C'est un combat. De toute façon, ça passe. Qu'ils aient une arme de corps à corps, ils foncent au corps à corps, ils tapent. Qu'ils aient un pistolet, ça passe. S'ils ont un fusil sniper, c'est pour le style. À certains moments, en fait, RP, c'est contre des humains qui sont loin, ils sortent le fusil sniper, c'est cool, ça tire. Tout ce qui compte, c'est que ce soit.
C'est juste une affaire de cohérence. Voilà, c'est ça.
Ouais. Cohérent.
C'est pas tellement technique, là.
En gros, le tableau d'armes avec Zeta, Beta, machin, oubliez-le.
Il faut imaginer que sens Renaissance, mais ce sera aussi valable encore pour Sens Cosmo et pour Sens Mort, même s'il n'y a pas beaucoup de combats. Ce sont des combats RPG à la Final Fantasy, en fait, ou presque. Sauf qu'il y a des déplacements dans le décor, mais sinon, c'est ça. Et donc, du coup, dans Final Fantasy, franchement.
Que t'aies une arme de corps à corps ou une sulfateuse, on s'en fout, quoi.
Le fait que Barrett, il tape avec son bras mitrailleur et que Clad tape avec une épée, ça ne fait aucune différence.
Tu veux dire une pelle à tarte?
Une pelle à tarte, c'est ça, une planche à pain.
Une planche à pain,
s'il te
plaît. Ou alors une raclette à paella.
En kit, en plus, qui peut se démonter, c'est pratique.
Ouais, et après, quand tu la rechopes, tu fais... Et
alors, du coup, voilà, il y a ça, il y a les portées, il y a les dégâts. Pour l'amélioration, n'oubliez pas que lorsque... Alors, excusez-moi, je reprends. Au début, voilà, on s'en fiche, ils ont 3 BM, ils ont une arme et ils ont une amélioration spéciale. Pour les améliorations spéciales, en gros, soit ça vous donne... parce qu'il y a plusieurs exemples dans le bouquin. En gros, pour vous dire ce que nous, on a fait, c'est... Soit ça donne une capacité spéciale...
Genre voler. Plastron ailé vous permet de voler.
Et dans ce cas-là, c'est tout. C'est suffisamment cool comme ça. Soit ça va vous donner des bonus dans une rune. Et dans ce cas-là, ce bonus sera de plus 10 lorsque la répliude est utilisée. Exemple, une visière, plus 10 sans mort. Par contre, une vision infrarouge, ça peut dans certains cas donner des bonus. Là, c'est la liberté du MJ, ça paraît évident. Des jambières éclairs, c'est plus 10%, mais ça peut aussi être des réacteurs dorsaux. Ça peut être ce que vous avez envie. Et les améliorations peuvent être plusieurs fois la même chose. Genre, au début, j'ai juste des petits réacteurs sous les pieds, plus 10 en KO. Niveau 2, ça augmente. Maintenant, j'ai carrément des propulseurs, c'est plus 20 en KO pour l'initiative. En gros, sentez-vous libre. Mais si c'est du permanent, essayez de limiter à plus 10, quoi. On évite le plus 30, la ceinture hide, l'invisibilité, typiquement.
Tu nous fais un bruitage, Rafa.
J'ai fait un bruitage. Mais on n'entend pas.
Mais vous pouvez aussi vous amuser à faire des amélios qui sont temporaires et qui donnent des gros bonus, genre des gros flashbangs. Enfin, là, les amélios spéciales, c'est à la liberté de chacun. Évitez juste que ça fasse plus de plus 10 permanent, sinon ça crée un peu des inégalités. Sauf si c'est vraiment hyper spécialisé. Nous, on en avait un qui avait une matrice de calcul réalité ombre-monde. C'était plus 30 en Cosmo quand il fait des calculs entre la réalité et l'ombre-monde, parce que c'est tellement circonstanciel que voilà, quoi. Donc en gros, les améliorations spéciales, c'est un peu comme vous le sentez. Mais n'oubliez pas de dire à vos bugs de pas oublier de développer leur carré et leur BM. C'est bien mignon de taper fort, mais bon, au bout d'un moment, il faudra des carrés.
Ouais. Coucou.
Donc à la fin de chaque scénar, il y en a qui passent par Soren pour les améliorations. Moi, nous, on le fait pas. Pour nous, c'est plus logique le fait que la répliouïde évolue toute seule. Et c'est beaucoup plus intéressant.
Oui, c'est je suis tellement d'accord avec ça.
Alors, voilà. Effectivement, le pour de Soren, c'est qu'effectivement, passer par Soren renforce la présence de Soren à la table.
Ça donne l'impression qu'ils peuvent retirer la répioïde.
On n'entend pas.
Ah, dommage. Oh. Vous avez raté une super musique.
Attends, mais c'est ma musique de portable. Hein. C'est quand je reçois des textos, ça fait ça.
C'est les textos les plus épiques du monde.
C'est clair.
On va rentrer dans le podcast gentiment.
Non,
attends, il veut absolument. Tu sais qu'ils entendent pas grand chose.
Je pense qu'ils entendent rien du tout, mais moi ça m'amuse, tu vois.
Vous savez pas ce qui se passe derrière les micros, mais c'est pas grave.
Pour rire les auditeurs, bah, tu sais, ça va toujours amuser.
Ça te va pas de pas être animateur et d'être.
On a Romaric Unleashed. Non,
mais c'est bon, là. Ah oui, le marteau.
Vous avez fini avec vos montages.
Voilà, je l'ai cassé, je reprends.
Donc, effectivement, faire appel à Solipsis pour réparer les armures, c'est pas très cohérent avec la suite de l'histoire, pour le moins. Et par contre, tu disais que ça présentait un intérêt, Maxime.
De passer par Solipsis.
Je disais que ça permettait d'introduire Solipsis plus souvent auprès des joueurs, que ça donnait une raison de l'avoir, de discuter, etc. Ça crée une situation.
Oui, parce que Solipsis, même s'il y a marqué qu'il n'est pas censé être là.
c'est le même
de Jérôme. MJ, pourquoi tu parles tout le temps de ce personnage masculin en disant.
De ce PNJ masculin féminin. Jérôme, si tu nous entends. Mais arrête, plus personne n'y croit.
Plus personne n'y croit.
On a la pêche ce soir. Il est tard, mais on a la pêche.
Alors, quand vous la voyez, en gros, quand même s'il y a marqué qu'elle est censée ne pas être souvent au pôle sud, si, elle est tout le temps là. Hein, c'est bon. Quand les PJ ont besoin, c'est elle qui vont voir.
Oui. Non,
Maria, on s'en fout, elle nous intéresse pas.
Non, mais c'est bon. C'est un support. Nathanaël, mais
c'est un support, un fantasme, c'est tout, Maria, on est d'accord.
Donc, en fait, c'est pas le podcast Errata, c'est le podcast Je réécris sens, quoi.
Bah ouais, on prend le pouvoir. Laisse-moi juste terminer là-dessus.
Non.
Donc, quand ils évoluent, ils gagnent à chaque scénar, soit au choix plus un carré,
d'accord,
avec une limite maximum de 20, le jour où ils l'atteignent, vous m'appelez, soit plus un BM à une de leurs armes en se limitant à 3 BM.
Oui, arriver à 3, c'est suffisamment badass comme ça.
Vers la fin de mort, vous pouvez commencer à les lâcher, là. Vers la fin de mort, genre, Quadria de Cosmo, le second, vas-y, je commence à taper à 4 BM dans ta gueule, et ça fait plaisir.
4 BM, c'est beaucoup. Moi, j'ai jamais été au-delà de 3, je crois.
Bah, nous, on avait 3, mais on avait autorisé une joueuse à avoir 2 flingues, c'est-à-dire qu'elle avait 2 flingues qui faisaient chacun 3 BM.
Elle faisait 3 par flingue.
Mais par contre,
ça, c'est très Metroid, ça. Putain, mon jingle, vite.
Mais elle encaissait comme une pelle à terre, et en fait, son frère jumeau, lui, il était spécialisé dans la défense, et là, du coup, ça faisait un bon combo bien sympa.
Je suis pas qu'elle apprécie que tu la traites de pelle.
C'est pas tellement Metroid d'avoir
par contre, elle a pris cher. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle a pris cher. D'accord. Bon, bref. Et sinon, c'est soit ça, soit une amélioration spéciale. Je vous conseille de bien insister sur les carrés et les BM. Au début, ils peuvent se lâcher sur les améliorations spéciales, mais assez rapidement, je pense que quand ils vont commencer à rencontrer leur premier cadré, ils vont faire « Oh, je peux investir dans des carrés, s'il te plaît ?» Parce qu'en fait, je me sens un petit peu à poil. Surtout contre les quadrillés de Cosmo. Alors là, les quadrillés de Cosmo qui tapent à 3 BM.
Soyez un peu traître. Demandez-leur « Ah, je voudrais trop une amélioration spéciale. » Alors, oui, vas-y, c'est quoi ? J'aimerais trop ça. Bon, d'accord. Et puis, notez-le dans un coin de votre tête. Et au scénario suivant, alors que la bataille bat son plein et que c'est trop la merde, soit vous faites intervenir cette amélioration qui pop dans ses ou par magie dans la situation la plus désespérée, soit vous faites quelque chose d'approchant. Ou alors vous êtes vraiment traître comme Maxime et vous filez les ailes à quelqu'un d'autre.
On file l'amélioration à un autre PJ.
En fait, on avait un PJ qui voulait à Plastro Ailé parce qu'il trouvait ça trop cool. En même temps, il changeait d'avis comme de chemise.
Oui, ça ressemble vachement au scénar de...
C'était un chaos. Il disait, dès le début, il a fait, je peux avoir des ailes! Non, je veux des rétrofusées! Non, je veux des ailes! Enfin, il était jamais d'accord.
Donc, du coup, on lui a donné les rétrofusées, parce que comme c'était un créa, on trouvait que c'était cool. Et du coup, on a filé les ailes à un autre TPJ qui avait de la vie. Donc, on trouvait que c'était pas mal qu'il puisse protéger avec des grandes ailes.
Ça me fait penser au scénar de Soul River.
Et ce qui est drôle,
au moment
c'est
où
que...
lui a dit, et là, il y a des ailes qui pop, t'as tous les yeux qui se sont tournés vers le joueur qui les voulait depuis le début, genre mon dieu, pourvu qu'il nous mette pas un câble.
Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au truc de Neal Buck quand l'elfe reçoit un niveau. Tu sais, le nain qui est trop vénère,
putain,
parce que il peut rien arriver de pire.
Chaussette!
L'elfe gagne un niveau. Oh non!
Mais c'est moi qui avais dit! Chaussette!
Bon. Je visais la jambe.
Mais ceci est donc un errata sur les.
Sur sens.
Et nous sommes à Sens Renaissance.
Alors on va attendre la fin là de Sens Renaissance parce qu'à part ça, j'ai pas grand chose à dire sur le Sens de la Naissance.
D'accord, ok. Moi j'ai un dernier truc à dire sur Sens Renaissance. La date de Solipsis à la fin de la chronologie est pas bonne.
Sa date de naissance date,
c'est 531 CSH, elle devient professeure à 11 ans.
Elle a toujours été très douée, cette petite.
Donc c'est à 21 ans, c'est déjà énorme. Et donc c'est en 541 CSH.
C'est quand
voilà.
Même
mais
la
ça, je l'avais déjà dit, ça c'est un des errata dont je me souvenais.
Ok, on entame
Sens
Mort.
Et ça a été corrigé dans Sens Mort. Pardon, excuse-moi.
Non,
vas-y, à toi.
Donc on entame Sens Mort.
Sens Mort, c'est parti.
Allez, c'est parti. Sens Mort. Dans Sens Mort, la fiche de personnage est agrémentée d'une fiche de lien que vous trouvez à la fin. Alors, les options, c'est éventuellement d'attendre le scénario où apparaît le renard, qui leur explique ce que c'est que les liens, et puis de leur donner...
Ou de le faire apparaître spontanément direct.
Oui, enfin, de les donner rétrospectivement à partir de ce point-là, en disant maintenant que vous savez ce que c'est que les liens,
ils depuis apparaissent, le début, ils popent sur la feuille.
Voilà, ils popent sur la feuille. Alors...
Quelle vision.
On l'a pas choisi comme ça. En fait, on leur donne 20 d'emblée.
mais on leur explique pas ce que c'est. On leur dit, vous avez une nouvelle fiche, là, vous la voyez, là, dès le début de Sciences Mort, vous allez indiquer des liens. On leur explique le principe, hein, ça peut monter jusqu'à 10, ça peut pas descendre, c'est des liens sentimentaux, etc. Même les personnes mortes peuvent compter dans des liens. D'accord. Et on leur explique juste pas ce que c'est. On leur dit, voilà, et puis quand vous les invoquez, c'est génial, ça vous donne des points en plus. Et juste, on leur dit pas. Et on leur en donne 4 par scénar. En leur donnant 4 points de lien par scénar, en plus des 20 de base de mort, à la fois dans Sens Mort et à la fois dans Sens Néant, j'ai réussi à leur faire atteindre 61 points de lien à la fin de Néant.
Ouais, bravo.
Donc, je crois que c'est le nombre que tu recommandais.
Ça dépend du nombre de scénars que vous faites.
Là, dans la base de Cosmo, c'est soit au départ, alors, parce qu'il faut savoir que dans Cosmo, les joueurs refont leurs personnages, ce sont les mêmes personnages, mais ils les refont en fait. Parce qu'ils
referaient les fiches.
Ouais, mais enfin bon, c'est normal parce qu'en fait, elles deviennent rapidement sales hein, quand même, les fiches. Il y a beaucoup de trucs qui sont gommés, etc. Et en dehors de ça aussi, c'est aussi l'occasion de montrer aux joueurs, enfin, à leurs simulacres, qu'ils sont beaucoup plus forts quand ils sortent de l'entraînement avec la 6 qu'ils ne l'étaient avant.
Puis, en théorie, il y a un changement de.
Il y a un changement de paradigme, on va dire. Ouais. Pour le et donc du coup c'était aussi pour ça, et le nombre de points de lien qu'ils reçoivent à ce moment-là, pour revenir à ces histoires de points de lien, c'est 60. Donc là, 61, 60, bonnet blanc, blanc, bonnet.
Oui. Ça change un gros truc, de passer à 61.
Oui, ça fait qu'ils vont avoir 7 points de rayonnement au lieu d'en avoir 6.
Mais
ça,
voilà,
alors que là, ici...
C'est cool.
Ouais, c'est cool, voilà.
Plus de rayonnement.
Sachant que de toute façon, dès le début du premier scénar, ils ont 12 points, ils commencent avec 12 points d'expérience, donc ça peut...
Donc voilà, vous avez deux possibilités. Soit vous attendez le renard et puis vous faites les liens en rétrospectif. N'oubliez quand même pas d'indiquer les liens, hein, parce que la plupart, je sais plus qui je discutais, qui me disait, ah ouais, merde, j'ai oublié l'histoire des liens. Ou soit vous les faites intervenir dès le début, vous restez très mystérieux, et c'est le renard, et à la fin du renard, vous dites, ah mais ça, mais en fait, ça sert à ça.
D'accord, ok.
Le renard qui leur explique. Genre voilà. Même s'ils ont des liens, vous pouvez dire.
Parce
bah...
qu'en fait, je considère qu'ils les ont les liens quand ils arrivent à mort et qu'ils pourraient les faire intervenir. Je trouve que le renard arrive en milieu de campagne. Je trouve ça dommage d'attendre le milieu de la campagne pour pouvoir s'en servir.
D'accord, très bien. Ouais, c'est pour ça que tu as fait ça et c'est une très très bonne idée.
Et moi,
je pense.
sur ma table, j'ai fait carrément. Merci. Je leur ai fait rencontrer le renard très tôt.
Ouais. Alors effectivement.
Plutôt que d'attendre le scénar du buveur.
Là, il faut que je vous parle d'un truc parce que un truc essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions qui viennent du fait que effectivement, dans Sens Mort, il y a des quadrillas qui sont difficiles à faire parce qu'ils doivent être vaincus dans l'ordre. Il y en a un qui sort de l'histoire.
Etc. Le marchand. Ouais.
Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la campagne de Sens est écrite pour donner les informations suffisantes au MJ pour qu'il puisse créer ses propres épreuves. Et en théorie, voilà, il n'est pas forcé non plus de suivre à la lettre. Effectivement, il ne peut pas suivre à la lettre des pièces de théâtre. Ce n'est pas possible. Quoi. Il ne peut pas faire dire à ses personnages joueurs ce que Agenis, Lina et Marius ou Nathaniel et Protecteur disent dans Sens Mort. Ce n'est pas possible. Donc, moi, j'avais fait ça pour...
Seulement sous la torture.
Voilà, c'est vrai. Enfin, là, ça devient glauque même presque. Donc, évidemment, faut pas respecter ça. Et donc, l'idée, c'est pareil. Ce qui était bien dans le livre Sens Mort ne l'est pas dans le jeu. Par exemple, un truc qui est nul dans le jeu et qui est dans Sens Mort, c'est Solipsis disparaît presque au tout début.
Ouais,
de Sens Mort.
Ça. On voulait le dire, ça aussi.
Et ah oui, vous allez en parler. Okay, bon, je me tais alors. Un dernier truc sur le renard. Saint-Exupéry dit « L'essentiel est invisible pour les yeux, ouais. Pas invisible aux yeux. » Dans Sens Mort, j'ai écrit « Invisible aux yeux, c'est une immonde faute. » Donc dans Sens Mort, j'ai écrit oui. « Le renard dit « L'essentiel est invisible aux yeux. » Et l'essentiel est invisible aux... Du coup, ça devient « L'essentiel est invisible au sens. » Ce qu'il faut faire dire au renard, c'est « L'essentiel est invisible pour les sens. » Et ça, je vous invite, si vous voulez des errata sur tous ces petits points de détail, à réécouter les deux excellents podcasts qui ont été enregistrés avec Natacha sur des errata très technique vis-à-vis de l'écriture de sens. Voilà, c'est juste une petite parenthèse.
Ça voilà. Me permet aussi et de reparler. Et donc, en plus des liens, vous avez donc, à la fin de Néant, vous devriez arriver à 61. Alors, moi, j'ai donné 4 points de lien. Ça fait beaucoup. Hein. Je crois qu'en moyenne, c'est 3. Mais c'est parce que j'ai pas fait beaucoup de scénarios. Donc, plus vous faites de scénars, plus soit vous délayez pour arriver pile poil à 61, soit vous vous arrangez pour donner des petits points en plus. Voilà.
D'accord.
Maintenant, pour le total des faits. Pour le total des faits, ça va juste être un rappel. À la fin de Sens Renaissance, quand vos joueurs font le total de leurs runes, c'est ça, hein ?
Le total,
oui,
de leur miroir.
Ils doivent atteindre
150.
Non, il commence à 150.
Non, pardon, il commence à 150. Donc vérifiez bien qu'il commence bien tous à 150. Et ensuite, à la fin de Renaissance, il devrait arriver à 180 au minimum et 200 éventuellement.
Ouais. Même 210.
Voire jusqu'à 210 si vous avez fait beaucoup, maximum, beaucoup de scénarios. Ouais. Ce qu'on vous conseille, de toute façon, à la fin de chaque opus, c'est de refaire le calcul avec vos joueurs pour vous assurer qu'ils ont bien tous le même nombre de points.
Ah, mais c'est ce que je dis
et
dans le sens cosmo.
Au pire, s'ils n'ont pas le même nombre, parce que ça arrive d'oublier des points, notamment à mort ou avec les points liens, ils ne savent plus trop, ils les gardent en réserve et puis ils oublient de les mettre au final.
D'accord.
Prenez le joueur qui a le plus de points et vous alignez tout le monde sur le barème supérieur.
Ouais. Ah, c'est bien ça de niveler par le haut. C'est le genre de truc qu'on fait assez rarement dans la réalité.
Donc vous prenez celui qui a
c'est du jeu de rôle, hein. Faites-vous plaisir, niveler par le haut. Hein.
Vous prenez celui qui a le plus. J'ai juste fait coller pile poil 61 à néant, mais en fait vous pouvez niveler par le haut. À la fin de Sens Mort, si vous refaites le calcul, vos joueurs sont entre 220 et 250. Voilà, en moyenne.
C'est ça, entre 220 et 250.
c'est bon.
Oui, mais c'est lui qui a écrit. Et à la fin de Néant, si vous refaites le calcul, c'est 250 à 310. Mmh. Donc on vous recommande d'arriver à 310, voire plus.
300 surtout, c'est ça qui est recommandé.
C'est 300, mais 310 ou plus. Y a
autant dire, lâchez-vous, c'est pas grave si vos persos sont trop bourrins. De toute façon, à mort, ils perdent les combats. Donc
tiens, justement, c'est la suite. Tiens, alors vas-y, prends la fiche.
À mercredi.
Allez, vas-y.
Un tout petit.
Un tout petit, qu'est-ce qu'il y a, un tout petit?
Égalité parfaite, quadrilla mort.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on dit sur les quadrillas de mort?
Bah justement, qu'ils font gagner des points.
Ah oui, ils font gagner des points. Ouais. Les quadrillas de mort, oubliez, c'est assez discret, mais ça faut respecter dans la base. Enfin, à mon avis, c'est à chaque fois qu'il y a un exorcisme, demandez tout de suite au personnage, tu te sens comment là? Tu te sens comment après avoir vaincu ce quadrilla? Et là, généralement, ils ont tous des attitudes différentes. Il y en a, c'est bah, je m'en fous, c'est un pauvre con.
C'est bullshit.
Voilà. Et là, dans ce cas-là, vous lui mettez un point de néant. Si vous dites ah putain, je me sens triste. Le buveur. J'ai encore jamais vu personne qui me dit « Oh, c'était de la merde ». J'en ai pas encore vu. Alors, tout le monde, toujours, est triste pour le buveur.
Le buveur, c'est dingue. Donc, en fait, pour tous les quadrillas de mort...
C'est le cas aussi à mes tables.
Ouais. Pour tous les quadrillas de mort, ils font gagner soit un point bonus en mort, soit un point bonus en néant, selon l'état d'esprit. Sauf le buveur qui est très particulier et qui, en fonction de son propre état d'esprit quand il est exorcisé, c'est-à-dire que si les joueurs sont plutôt conciliants, essayent de lui remonter le moral, je sais pas quoi, il fera gagner moins de points, disons un minimum. Et si vraiment les joueurs l'enfoncent et lui disent finalement, bah voilà, la vie c'est de la merde, t'as bien raison, ça peut monter jusqu'à 3.
Moi, en fait, je pensais que s'il affectait autant les joueurs, c'est parce que j'avais joué qu'en Bretagne et que, comme en Bretagne,
le problème de l'alcoolisme, ouais.
C'est... En plus, je veux dire, je pense que le désespoir de l'alcoolisme, les gens le connaissent.
Oui. Voilà. Absolument.
Autour, hein. Les amis, la famille, les proches.
Je crois que les gens qui ont la chance de ne pas connaître ça, soyez contents. Quoi. On en connaît
mais
tous.
Mais vous vous rendez compte que c'est une tragédie aussi, les autres quadrillas de mort. Hein.
Oui.
Tu sais,
oui.
Les scientistes, c'est tragique.
Mais
c'est tragique,
ça dépend,
aussi.
Par exemple, le
géographe fait beaucoup pleurer les gens aussi.
Enfin, le businessman, moi j'en connais des gens qui sont un peu tragiques businessmen. Hein. Enfin, je veux dire,
moi j'ai trop du mal à le faire jouer parce que pour moi c'est un gros connard, c'est tout.
Communiste.
Ouais, voilà, putain de communiste.
Putain, communiste.
J'arrive pas à bien le faire jouer.
Tu as la fête de l'humain, toi.
Moi, ce qui m'a dégoûté, par contre, je suis tombé sur des joueurs.
J'ai deux espadrilles gauches.
Moi, je suis tombé quand même sur un joueur quand j'ai fait le marchand qui défendait le marchand, quoi. J'ai dû faire un quadrilla de mort qui s'auto-blâmait. parce que le gars en face était, c'est cool la consommation, c'est la loi du marché, tout ça, c'est bien, quoi. Ça fait de l'emploi et tout. J'étais là. Mais putain, tu
prends 15 milliards de points de néant, t'es anéanti.
Voilà, espèce de con.
Sors de ma table, espèce de consommateur de merde.
Voilà, et du coup, ça fait un peu mal au cul. Non, mais par contre, n'hésitez pas à les laisser discuter avec les quadrillas de mort au lieu de lancer le combat. Ça marche bien.
Ah oui, un point, putain. N'oubliez pas que discuter en combat, c'est-à-dire faire intervenir des runes qui sont peu utilisées, type la création, en dehors de l'ombre-pouvoir, j'entends, les gens qui ont de la création sont des communicants. Donc, si jamais ils ont des arguments qui sont percutants, n'oubliez pas que ça peut causer des blessures.
Je rappelle que dans un combat, on a le droit de faire 4 actions, on a le droit de se déplacer, on a le droit d'attaquer, on a le droit d'utiliser un nombre pouvoir quand on est dans la zone adéquate, et on peut parler, et c'est très important parce que les paroles, ça peut par exemple permettre d'élaborer une stratégie. Je rappelle que tant qu'on suit la stratégie, on a des petits bonus, enfin, il y a plein de petites règles optionnelles comme
Mais faire un vrai combat d'arguments...
En fait, faut le dire, la clé de voûte du système et de l'équilibrage du système repose sur ces fameux bonus-malus que l'on reçoit en fonction des circonstances et de la cohérence du contenu fictionnel malléable à ce moment-là. Et malgré tout, ben voilà, c'est ce qui va donner le souffle d'air qui va faire qu'on n'est pas dans un jeu qui est totalement déterministe et qu'effectivement les choix des joueurs et les choix des actions qu'ils entreprennent en fonction des décors sont importants. Et moi,
et puis sur la qualité de la résolution,
oui,
son impact,
tout à fait, tout effectivement. Et moi, c'est pour ça que j'ai tendance souvent quand on fait un combat, je suis un genre de personne à avoir toujours un petit tableau blanc. Vous le voyez derrière moi là, le petit tableau blanc sur lequel je vais écrire les plans. En fait, je vais carrément faire un mini plan.
Je regarde tes plans, ils sont géniaux.
Ça devient presque du donjon.
Il y a marqué OK, papa, coucou.
Oui. Oui, bon, bah,
ça c'est un plan.
Bref, je dessine aussi je fais aussi des plans pour Sora. donc ça peut être intéressant quand même de faire des petits plans pour expliquer. Bah là, t'es derrière un mur, là tu vas te cacher, oui, mais t'es où à tel moment et tout. Moi, j'aime bien jouer un peu avec des plans, des quadrillages, tout comme ça.
Bon, si après, vous avez la chance de vivre dans un immense salon de 50 mètres carrés, faites-les jouer debout, quoi.
Ouais, alors bon, alors on l'a fait.
On l'a pas le salon de 50 mètres carrés. J'annonce tout de suite que c'est un fantasme.
Non, mais parce que c'est moi qui dis ça. Là, tu rebondis sur un truc que j'ai dit déjà, non ?
Oui.
Oui, tu es en train de me foutre de ma gueule. Donc,
non, jamais.
Je tiens à dire que nous avons joué.
Je tiens à dire.
Je tiens solennellement devant vous ce soir que nous avons joué avec Darky et tous ses potes. Il y avait 6 ou 7 joueurs, je ne sais plus, dans un appartement de 20 mètres carrés. À Rennes, et que pendant les combats, nous nous sommes tous levés. Et je tiens à dire, j'aurais dit, ça se joue comme ça. C'est du tour par tour. On est dans un Final Fantasy. Je leur ai dit, on est dans un jeu vidéo. D'ailleurs, Classis ne manque pas de faire des réflexions à ce sujet.
Ah bah, Classis, ça les a fait jouer debout, hein.
Voilà, très bien. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire dans un 20 mètres carrés. On n'est pas forcé d'avoir un 50 mètres carrés chez soi pour jouer
Non, mais quand vous avez des joueurs en hyper immersion et qui se mettent à faire des roulades sur votre canapé, ça devient un peu hardcore quand même. Hein.
Putain, toi aussi, ça t'est arrivé ça? Putain, moi, c'est à Saint-Seiya que c'est arrivé.
Non, j'ai eu peur que ça arrive.
Il y a des choses qui doivent rester à la baronnie. On ne parlera pas de, des moments.
Et là, je crois qu'on va entamer les petites précisions de scénar.
Juste, j'en étais à donc les quadrillades morts.
Font gagner des points.
Les quadrillades morts, vous pouvez discuter avec. Et les exorcismes. Alors là, c'est un point très tendancieux. On n'a pas encore trouvé de solution parfaite. Nous, actuellement, on a laissé un joueur. Quand il y en a un qui le fait, il tombe dans les pommes et ils entendent la voix. Et on le laisse exorciser, raconter sans le stopper.
D'accord.
Je me demande s'il ne faudrait pas le stopper en lui disant juste tu racontes une phrase à ton tour, même si ça ferait durer le combat aléatoirement, trop longtemps. Moi, je trouve que c'est plus tragique quand c'est rapide. Des fois, c'est bon, il y a quelqu'un qui raconte.
Mais n'hésitez pas
à faire des quadrillades morts. Qui font des attaques qui sont logiques vis-à-vis d'eux-mêmes. Moi, je trouvais ça cool, le vaniteux qui balance un énorme appareil photo, qui fait un gros flash sur tout le monde et qui brûle les réplioïdes. Le roi qui dit j'ordonne ceci, j'ordonne cela, et qui du coup qui modèle sa larme en direct. Et soyez des gros bourrins avec les quadrillades de mort. Franchement, faut taper à coups de 3 BM. Faut taper à coups de 3 BM direct sur les joueurs.
Faites leur peur un peu.
Foutez leur les jetons. Moi, je balance des ombres pouvoirs qui font 3 BM à tout le monde avec un quadrillade de mort. C'est Apocalypse dans ta gueule. Typiquement, le réverbère, ce qui est bien en plus, c'est que le passage est long dans Le Petit Prince. Donc, il est très long à exorciser. Et c'est même le réverbère. Moi, le joueur qui le faisait, il s'est mis à accélérer l'exorcisme parce qu'il sentait que c'était la merde. Parce que, franchement, le réverbère, faut se lâcher. C'est le combat épique. Il balance 3 BM. Il s'en fout. Il attaque 4 fois à son tour. C'est un gros bourrin.
Péter la planète sur laquelle il est, quoi.
Il explose la planète. Il balance des gros jets de lumière. Moi, j'ai vraiment un joueur à la fin. Il me disait, putain, il me reste une BM. Ils ont vraiment flippé. Ouais. Ils étaient là. Alors qu'ils savent pourtant que le jeu, dans le fond, ils peuvent pas trop mourir.
Alors, c'est génial. Je voulais en parler de ça.
Eh ben hop.
Oh, mais trop bien. Errata.
un arrêt.
Ils peuvent mourir. Non, je plaisante.
Oh merde. Merde.
Non, non, mais ils peuvent prendre très,
très cher.
Ils peuvent
mourir, mais ils peuvent prendre cher.
Ah ouais.
Couper leur des bras, trancher leur des yeux. Mais
transformer en paraplégique.
Oui.
Alors, n'oubliez pas que pour certains sujets, genre des maladies graves ou des trucs comme ça, ne vaut avoir l'accord du joueur avant, parce qu'on sait jamais.
Oui, oui,
mais
tout
bon,
à fait.
Allez-y, quoi, crever leur des yeux.
Non, non, mais moi, là-dessus, je ne comprends
pas.
Honnêtement, je ne comprends pas les messages sur le forum que je lis parfois où des gens disent, mais je peux rien leur faire, c'est compliqué de leur faire peur, de leur faire de la menace et tout. Putain, ils ont plein de PNJ auxquels ils tiennent, ils ont des putains de points de lien, mais tu les charcles.
Ça, dans Mort,
tu
ils ont bien compris.
Tu les défonces, quoi.
Et n'oubliez pas le petit point de lien qu'ils ont mis au début de mais Renaissance,
ouais.
C'est le moment de le sortir et leur dire, tu y tiens vraiment? Genre vraiment, vraiment,
le moment
vraiment
est venu de trancher tes liens, quoi.
La menace fonctionne très bien, moi je l'ai fait, oui. Moi il y en avait un, il était en train de discuter avec quelqu'un d'autre, avec une PNJ à côté de lui, et quand l'autre a commencé à le menacer, le gars a fait, vos armes ne me font pas peur. Et l'autre répond, mais ce n'est pas sur toi qu'elle est braquée mon arme.
et là
tu vois les yeux du joueur qui est là, non, en plus c'était Anthony Hummer à côté de lui, il était là, oh putain.
Et voilà, c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon, oui effectivement, les joueurs ils ont pas peur, hein, parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas mourir, ouais ils peuvent peut-être pas mourir, mais
ils peuvent prendre cher.
Ouais, ils peuvent prendre cher, hein. Quand tu vois, voilà. Skunk qui perd un bras, Course qui se fait défoncer l'intégralité du corps et qui est obligé de remplacer. Agonis, il est borné à la fin. Vous voyez, ça a charclé pas
Nathaniel,
mal quand même.
Il a perdu
Marianne. Nathaniel, ça va.
Non, c'est Gabriel qui a
l'arythmie. Gabriel,
lui, il a plus de cœur. Son cœur se lâche en permanence. Protecteur, il va peut-être devoir buter son meilleur ami. Enfin, tu vois, ils ont tous. Tout va bien. Hein, je veux dire. Pas de
tout
problème.
Tout va bien.
Voilà, le but, c'est l'immersion et qu'il faut qu'ils se rendent qu'en fait, ils doivent avoir l'impression que gagner dans le sens et bien gérer ses combats, ça permet de s'en sortir sans être trop
emmerdé. Non, et puis donnez-leur des trucs cool. Donnez-leur des trucs cool.
Oui,
faites en sorte que leur amour resté sur Terre tombe enceinte.
Ah
ou
ouais,
veuille un enfant, ou les trompe parce qu'ils donnent jamais de nouvelles, parce que les joueurs oublient toujours que les PNJ ont un cœur.
C'est un truc aussi, on peut errata ou pas errata, hein, c'est dans la base, mais les scénars solo, ça aide beaucoup pour ce genre de choses. Hein. Si on fait pas de scénar solo, ouais, c'est chaud. Hein,
n'oubliez pas que les PNJ ont un cœur et que les promesses pas tenues peuvent faire très mal.
Voilà, un cœur à briser.
Alors, le mot d'ordre aussi pour Sens Mort qui
peut pas briser des larmes, on peut briser des cœurs et ça fait tomber les larmes.
Ouais, on en parlait l'autre fois et avec Jérôme.
Qu'est-ce que c'est beau ce que je viens de dire, putain.
Ouais.
C'est
beau. Briser des cœurs dans un torrent de larmes. Quel poète.
Le mot d'ordre dans Sens Mort, globalement, si vous voulez que les joueurs s'impliquent ou qu'ils comprennent bien l'esprit, c'est qu'assez rapidement, il faut leur dire, dis-toi que tout ce que tu donnes à Séléné, Séléné te le prend.
Donc, plus tu t'impliques,
plus tu vas y perdre dans l'histoire.
Mais
plus tu vas réussir.
Mais toi, personnellement, tu vas prendre.
En gros, ça aide à faire comprendre que, ok, c'est l'aîné, c'est chaud de la faire changer, mais en fait, il va falloir que j'y perde beaucoup dans l'histoire.
D'accord.
Il va falloir que je donne de moi-même.
Ouais. J'ai peur que ce soit un démotivateur, ça.
Non, parce qu'il y a des gens que ça démotive et il y a des gens, ça les dérange pas plus que ça. Ou alors, c'est juste qu'ils vont tellement se motiver, ils vont quand même. Mais ils vont y perdre dans le sens où ils vont pas forcément avoir une famille stable, ce genre de choses. Mais ils vont donner énormément, ils vont faire avancer la résistance.
Juste un point, et après je te passe la parole, Morgane. Je pense que c'est compliqué de donner un conseil comme ça dans l'absolu parce que ça dépend vraiment de la psychologie du joueur.
Ça dépend de la psychologie du joueur. Néanmoins, être honnête, en disant, peut-être pas avec une formule aussi, mais en disant, plus tu vas t'impliquer, plus tu risques.
Tu t'attaques à
s'impliquer, c'est s'engager, s'engager, c'est avancer.
Tu t'attaques à un système bien rodé, il va se défendre.
Plus tu t'impliques, plus ça risque d'être chaud pour toi. Cette honnêteté-là rend les gens se disent, ah non, mais je veux pas souffrir et tout, je m'implique pas. Et c'est la culpabilité qui vient là.
Ouais,
mais
là,
tu dis,
ouais, donc en gros, pour toi, ça te dérange pas de laisser ce système
dégueulasse. Ça dépend
de
la psychologie du joueur, mais il y a un joueur qui aura l'honnêteté de te dire, non, moi je risque rien, ma peau d'abord, tant pis pour les autres. Tant pis pour les autres, très bien. Tant pis.
Faut faire attention quand même, encore une fois, aux psychologies des joueurs, parce qu'il y a des joueurs que ça peut frustrer.
Oui, nous, on est des gros sadiques.
Et moi, je fais le pari aussi que toutes ces accusations en participationnisme et en illusionnisme sur sens viennent aussi du fait que parfois les joueurs se sentent démotivés par Sens Mort particulièrement.
Qui n'est pas en regardant ses
Sens Mort, ouais.
Qui n'est pas en ouvrant sa fenêtre et en regardant le monde.
Hein,
les pessimistes, je parle ici bien sûr aux pessimistes théoriques et aux optimistes pratiques qui sont les gions et qui nous entourent. Morgane, Maxime, sur Sens Mort, d'autres errata.
Je crois que là après on va atteindre des
petits conseils de Sens Mort, même si c'est dur. Alors nous c'est notre problème parce qu'on adore théâtraliser. Essayez simplement de Enfin, je vais encore redire ce qu'on a déjà dit, mais essayer de saisir les motivations de chacun. Il n'y a pas besoin de connaître toute l'histoire de Miphos pour pouvoir improviser des discours intéressants.
Voilà. Très bien. Ouais.
Ça, et moi, je me fais piéger par ça. Moi, je relis comme un malade pour essayer de dire la même chose de ce qu'il dit, de ne pas louper des phrases clés. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'ils saisissent l'esprit de Miphos.
Oui, puis il suffit qu'il soit là.
Et puis il suffit qu'il soit là, ça suffit à les faire flipper. Hein. Donc voilà, n'ayez pas peur de pas tout dire. Relisez avant, évidemment, relisez la nouvelle avant de faire votre scénar.
Une fois sur Miphos, vous comprendrez dans le sens Cosmo que vous ne pouviez pas être incohérent. Donc faites-vous plaisir.
Il y a un truc aussi sur les quadriades Cosmo, un truc qui fonctionne bien, c'est le premier combat doit être un combat dans lequel ils se font péter la gueule. Ouais. Ils y perdent. Oui, ils y perdent tous quelque chose. Pitié. Un truc qui marche bien, c'est quand vous regardez dans leurs yeux, votre rune de Cosmo passe à 100% et ils comprennent quelque chose.
Ah oui, à 100%.
Ils comprennent quelque chose à ce moment-là qui leur fait mal au cul. Il y en a un, il a revécu un traumatisme enfantin et il a commencé à comprendre qu'il était schizophrène.
Ouais, d'accord.
Parce qu'il était schizo, hein, il l'a compris plus tard.
Ah, c'est pas mal ça, le coup d'avoir des révélations. Ouais,
des révélations sur soi-même.
Si quelqu'un croise les regards des quadriades Cosmo pendant un quart de seconde, les miroirs basculent complètement. C'est-à-dire que sa rune de chaos passe à zéro et sa rune de Cosmo à 100%.
Très bien. Ouais.
Alors, ils sont complètement immobilisés.
Ça colle tellement à l'histoire. Parce que là, en ce moment, je suis en train de travailler à mort sur l'histoire des quadriades
Cosmo. Mais ça, c'est le playtest qu'on a fait. Hein,
Non,
on l'avait déjà fait avant.
Ah ouais,
ouais.
Autant pour moi.
Et du coup, ça colle tellement.
Du coup, elle a filé l'air des petites révélations à ce moment-là.
Ou alors, soyez un peu teaser, mais un truc moche. Ouais. Et là, tu comprends que sans c'est. C'est bon, c'est
voilà. Non, mais True Story, je l'ai fait. Hein. Ouais. Et ça l'a bien. Le jour, elle était là, culée.
Pas mal, c'est pas mal. Jouer en plus un peu avec les méta, comme ça, c'est pas trop mal.
Et alors, dernière chose aussi, c'est que le deuxième combat contre les quadriades Cosmo, tu veux le faire?
Ouais.
Bon, bah, tu disais que t'avais fini mort.
Mais non, on attaque les corrections, les conseils errata, comme vous voulez, là, autour des scénarios, enfin, autour de la construction de l'histoire de Sens Mort. Mmh. Genre, typiquement, la disparition de Soren Solipsis dans la campagne de Sens Mort. Évitez de la faire disparaître, genre, trop tôt. Parce que quand vous lisez la base, elle disparaît en fait assez vite.
Au scénar 1, quand ils arrivent sur la
Lune. Oui, au scénar 1, quasiment, elle disparaît là tout de suite. Je serais d'avis de vous dire, laissez-la poser un peu. Laissez-la s'installer, laissez-la... Vous pouvez attendre la moitié, en fait. Moi, je l'ai fait disparaître à Buveur, et ça a été juste...
À Businessman.
À Businessman. Ça a été un cauchemar pour les joueurs. Parce que ils sont tapés le businessman qui était déjà pas joyeux. Puis ils avaient déjà bien commencé à marcher dans ses aînés, quoi. Ils étaient bien, bien dans l'esprit. Et du coup, j'ai fait disparaître l'amour d'un joueur. Elle s'est fait buter. Et Sereine. Blanc. Voilà.
Ouais, dur.
Mais laissez-la s'installer, laissez-la les encourager. Puis quand elle sera pas là. Parce que le problème de jouer en la faisant disparaître tout de suite, c'est que. Vous avez le risque que les liens se détendent. Enfin, ouais,
c'est ce que j'ai sur ma table. Et là, vu que je l'ai joué by the book pour ça, pas pour tout, mais pour ça. Et je me rends compte que là, les joueurs, ils ont déjà plus d'espoir pour Soren. Arrive un moment, ils disent, de toute façon, là.
C'est difficile de justifier le fait.
Mais au bout d'un moment, ça fait 2 ans. Quoi. Je veux dire, il faut arrêter le délire.
Parce que comme une campagne se fait sur 2 ans, Sens Renaissance, c'est en théorie, c'est 2 ans. Sens Mort, c'est 2 ans. Sens Né, on s'en fout. on s'en fout, pour avoir la foutre.
C'est bon, ça. C'est 5 heures.
2 ans, c'est compliqué, quoi. Dire pendant 2 ans, on la cherche à fond, c'est chaud, quand même.
Ok.
Voilà.
Okay.
Et du coup, on parle des combats des quadriades de Cosmo, maintenant. Mmh. Le deuxième.
Oui. Le deuxième combat contre les quadriades de Cosmo, c'est franchement plus tragique qu'il n'y ait pas de combat. Il y a Miphos qui arrive.
Faites-les négocier.
Voilà. Il sort Béberillium, il sort Lithium et Mars. En plus, éventuellement, si vous voulez vraiment leur foutre les jetons, vous mettez en plus hélium et hydrogène.
Oui, faites-les arriver petit à petit.
Et là, comme ça, ils arrivent, ils sont, allez, on est chaud, là, on s'affronte Miphos. Et là, ils voient, ils font, ah, non, c'est bon. Et là, il y a Miphos qui fait, vous voulez vraiment vous battre? Vous savez vraiment que ce combat est déterminé à l'avance. Ouais. Allez-y, essayez, mettez-moi quelques coups si vous avez envie d'essayer.
Et là.
Non, c'est bon. Maintenant, merci, Céline. voilà, il fait,
maintenant
Céline.
Maintenant que tu as rangé ton arme.
Maintenant que vous avez rangé votre arme, je te propose un truc. Vous nous laissez partir, on prend la rune de néant et je te dis où est Soren.
Voilà, posez-leur là. Genre, vous me laissez partir avec la rune des néants. Ils seront là jamais, tu partiras avec la rune des néants. Et je vous dis où est Soren. Mmh. Et en règle générale, comme c'est le chef d'équipe qui prend la décision, il avale 3 couleuvres et il a mal au cul.
Et un petit coup de poignard aussi dans le dos.
Ça, c'est chaud par rapport à la suite. Mais bon, ok, ça passe.
Quoi, il devrait pas négocier pour toi, il devrait vraiment se battre.
Mifos.
Négocie pas avec les terroristes.
Négocie pas avec les terroristes.
Non, c'est pas ça, mais bon, ça affaiblit un petit peu un truc après. Mais c'est pas grave.
Moi, je l'ai fait avec un combat, j'avoue qu'on a bien kiffé, parce que ce qui était marrant, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont vu juste Mifos. Et il y en a un qui a foncé en rentrant dans la salle, et là il y avait le dragon Mars qui était au-dessus, enroulé tout en la salle, et là pff, il débarque. Et ils ont fait oh my god! Et il y a Beryllium qui est arrivé, donc ils ont commencé à se battre.
Ils ont un fucking dragon!
Mais il a un fucking dragon! Il a un dragon!
Hey, on aurait dû en mettre un sur la couverture histoire.
Ah
oh,
oui, ça voilà, a en plus!
50%! Et du coup, non, le dragon ça fonctionne bien avec beryllium. Et généralement, ce que je fais, c'est après je rajoute hélium et hydrogène au milieu du combat pour bien leur faire comprendre que bon, les gars, mais ils ont réussi à foutre des bonnes grosses égratignures au quadrille là, pour le
coup. Oui, n'oubliez pas aussi un autre truc parce qu'il n'est pas présent ou très très peu dans la base de mort. Faites intervenir Krizor souvent.
Il n'est pas présent tant que ça.
Au tout début, pour le briefing de base, et puis à la fin, évidemment.
Donc, nous, dans notre campagne, il était vraiment assez présent.
Mais donc, du coup, comme c'est pas hyper visible dans la base de mort, je le rappelle, quoi. Faites-le intervenir souvent. Faites-le. Pas juste filer des indices ou donner des infos, quoi. Voilà, faites-le partager des bouts de vie, etc. Parce qu'il faut que la fin ait un peu de portée. Et ensuite, on passe tranquillement à néant, et Max finit, du coup.
Et merde.
Néant.
Juste avant la fin de mort, nous on l'a joué texto le kabuki parce que c'est logique en fait.
Moi j'ai carrément lu le bouquin devant eux, exprès.
C'est, c'est RP.
Moi j'ai sorti le bouquin et je lis devant eux comme
d'accord.
Si, voilà.
Moi ça se discute pas trop ça parce que après tout chacun voit le méta. Là quand on rentre dans le méta chacun le voit un petit peu.
Voilà. Chacun comme il
le
souhaite.
Alors les faits. Alors oui le truc qu'on n'a pas dit c'est l'effet du fragile et l'effet du simulacre de mort ne sont pas dans la base. Et les errata. Alors pour le fragile je ne l'ai pas sous les yeux malheureusement.
Alors c'est il y a trois ou quatre. En gros c'est je suis un fragile. Enfin, nous sommes un fragile, on peut même tripler, tiens, mais nous sommes. Mais je crois que c'est. Enfin,
lui, il dit je très rapidement.
Ouais, je crois.
Je crois qu'il dit je. Mais.
Donc bon, je suis un fragile. Je possède le sens ultime de la vue.
Je
suis attaché à comprendre d'où je viens. Ouais,
je cherche mes origines.
Je cherche mes origines. Il y avait d'autres trucs, mais moi j'ai mis que ça dans Cosmo.
Il y a je vous une haine, ami Fruscadria, normalement.
Ouais. Ouais. Mais ça, j'ai pas mis dans
qui
Cosmo.
Qui m'a torturé, mon bourreau.
Ouais, mon bourreau, ouais. Ça, je m'en souviens, mais ça, je l'ai pas mis dans Cosmo. Mais dans Cosmo, juste pour dire, dans Cosmo, tous ces faits seront
voilà,
redonnés.
Le bug de Séléné, c'est très simple, c'est je suis né le 22 février, machin, adoxystérone, normalement. Je suis un orphelin de doxystérone.
Oui. Absolument. Tu connais les trucs ? Tu veux que j'aille les voir rapidement ?
Bah non, mais là, ça va être bon, je pense que ça suffit.
C'est quoi ? C'était je suis un
bug.
Je suis un orphelin de doxystérone. Et
je suis né le 24 février.
Le 22 février. Non, le 24
février.
26 février 1002.
26 février 1002 ?
Je crois, oui.
Ouais, il me semble que c'est
26
ça.
26 février 1002.
Putain, faut pas qu'on se plante là parce que là, on a l'air con.
ils ont 6 ans de plus que les bugs, c'est facile. Et les bugs, c'est 996.
D'accord, ok.
26 février.
Bon, je regarde quand même tout ça parce que moi, je suis pas sûr de moi. Parce que quand même, c'est moi qui ai écrit ce bouquin, mais je sais pas ce qu'il contient. Hein.
Rome
pas déconné non plus. Hein.
Voilà, donc il faut effectivement les indiquer sur les archétypes disponibles.
Moi, j'ai une maladie mentale. C'est la maladie du gars, il écrit et il oublie. Et j'oublie systématiquement ce que j'ai... 26 février 1002, ajoute de la rune de mort.
C'est qui les...
Apparition des quadrillas de mort.
C'est qui les pros.
Donc voilà.
Et donc voilà, c'est des gens qui savent mieux que moi ce qu'il y a dans mes bouquins, c'est ça qui est bien.
Heureusement qu'on.
Oui, oui, petit truc aussi que on a pas su. N'hésitez pas pour la noble chambre. La noble chambre est sur Mars. Elle n'est pas sur la Lune.
Tu t'en remets pas, Romaric.
La noble chambre est sur Mars. Donc vous pouvez aller sur Mars, mais pas ailleurs que Fidridan. Donc ils vont à Fidridan.
Ouais, alors vous...
ils votent les lois là-bas. C'est joli, c'est en noir et blanc, ça fait un peu un pavé d'échec.
Voilà,
et moi ce que j'aime bien c'est faire siéger Mifos. Genre il dit rien parce que c'est démocratique.
Putain, vous faites aller vos joueurs. Bah, moi j'ai fait ça mais vraiment à la fin de Sens Mort. Et,
bah moi ils l'ont fait pour aller voter la loi sur la transition de la bouffe et ils ont dû avaler des couleuvres. Hein. Ils ont dû négocier. Il y en a qui étaient pour, il y avait des arguments, des échanges intéressants. Il y en a qui ont fait des amendements aux lois. Donc c'était un petit scénar où ils étaient que deux.
J'ai tellement hâte que Cosmo sorte parce qu'il y a toute la description de Fidridan qui est vraiment très précise.
Alors n'hésitez pas. Ouais, c'est dommage parce qu'elle manque vraiment dans Sens Mort. Après, sinon, il n'y a pas la peine, juste Criseur va voter les lois et ça suffit. Mm. Mais sinon, n'hésitez pas, quoi.
Mais l'idée de montrer Miphos déjà sur, dans son décor et se dire, putain, à un moment donné, on devra aller là et lui péter sa gueule et dans ce décor-là.
Surtout le jour où on reviendra, ce sera différent.
Ce sera pour lui voter le cul, c'est pas mal.
Ça. Et en plus, on s'est amusé à mettre.
Faire voter le cul.
Mais
c'est ça.
Putain, mais qu'est-ce qu'on dit comme merde ce soir? Maxime, mais arrête-nous là. Tu vas bien qu'on part en roue libre là.
Attends,
oh, arrête, t'as parlé.
Mais je vais parler. Bon, vas-y, c'est bon.
Ils sont trop
mignons. Comment tu
ils
jettes la feuille.
Ils sont trop mignons tous les deux. Vous les verriez là. Ils sont en train de se passer leur petite feuille là. Allez, Morgane, qu'est-ce
allez,
qu'il y a?
Allez, on finit par Néon.
Oh là 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 là.
Il n'y en a pas tant que ça.
Non, il n'y en a pas tant que ça.
Bah, on n'a pas beaucoup testé, donc
déjà,
on n'a pas grand-chose à dire.
On a fait un podcast d'accord. sur
on a fait, un podcast
on a fait beaucoup de podcasts d'errata voilà. sur Néant, déjà.
En fait, le seul conseil que j'ai à donner dans Néant, c'est de distiller les arguments acides et les arguments de Bop vraiment tout au long de la campagne. Tout le temps, tout le temps. Faites-leur rencontrer un maximum de corrompus. Pas forcément, ils le savent pas forcément. Hein,
c'est encore, mais... c'est du conseil. C'est
oui,
pas
oui,
un
c'est
errata.
Du conseil. Mais je vous conseille.
La différence, c'est que le conseil, c'est vous qui le dites.
C'est ça.
Moi, je m'engage pas dessus parce que j'ai pas testé.
Mais je vous conseille.
L'errata, c'est un truc,
mettre...
c'est moi qui me suis planté.
Je vous conseille d'en mettre un peu partout pour que les trucs fassent leur chemin dans l'esprit des joueurs. Quitte à les ressortir pendant la confrontation finale en disant vous vous rappelez quand je vous ai dit ça et quand je vous ai dit ça et quand je vous ai dit ça etc.
Ouais mais c'est plus des menteurs dans ce cas là
mais ils peuvent raconter des Indales peut très bien dire vous vous rappelez quand il vous a dit ça ça et ça et ça et ça bah en fait,
ah, mais ils ont pas eu des têtes d'ambassadeur.
C'est pas parce que tu peux mentir que tu passes ta vie à mentir hein.
Il a plus une tête d'ambassadeur.
Non mais c'est pas parce que tu peux mentir que tu passes ta vie à mentir.
Non.
Ouais.
Moi je mens tout le temps.
C'est que là en fait, si vous faites absolument aucun.
C'est ridicule de faire des mecs caricaturaux, genre ah, on est trop méchant, c'est ridicule et c'est pas.
Oui, non, mais ils ont pas besoin de parler.
Non.
Pour moi, un mec de la CIS, c'est un mec, il a un masque sur la gueule, il bute. Il parle pas, il défonce ta gueule quoi.
Je sais pas, non,
tâche,
bah, moi il y a
blesse,
des. Justement, plâme. Moi je trouve qu'il y a des acides, il y a des gros bourrins. Et il y en a qui justement essayent de, tu vois, c'est le côté obscur. T'as les gros bourrins et t'as ceux qui te disent attends,
d'accord,
tu vas voir, le côté obscur c'est cool en fait.
Ok, très bien. Mais en tout cas.
Mais parce que sinon à la fin ça fait
moi,
tellement.
Moi j'aime bien quand même l'idée de la métaphore, c'est-à-dire qu'ils parlent, ils disent pas forcément la vérité. Je t'entendais en préparation du podcast dire la façon dont t'avais
pas tout
joué.
Temps, hein, ils ont aussi raconté du bluff. Hein. Oh
ouais, d'accord. Mais l'idée en fait c'est, moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils disent la vérité. Mais j'aimerais bien que ce soit en conte, c'est-à-dire que une légende.
Oui, mais c'est ce qu'a fait Bop.
Oui, c'est ce que fait Bop.
Voilà,
j'ai jamais dit le contraire.
Quand l'alchimiste parle de ses recherches, c'est un peu métaphorique aussi.
Voilà.
Hein,
mais bon,
c'est...
mais pourquoi pas leur balancer aussi la vérité
un petit
et dire...
peu de temps en temps.
Comme ça, ça les rend un peu moins antagonistes en fait.
Oui, c'est surtout que sinon, à la fin, ça fait genre Morgane. Gros pavé d'infos. Les joueurs n'ont pas eu le temps d'y réfléchir, ils n'ont pas eu le temps de débattre sur éventuellement.
Ah, c'est pour éviter le monologue de la fin de Sens Néant.
Exactement.
Qui vous fait tout chier. D'accord.
Désolé, Rob.
Même s'il a un intérêt théâtral et sentimental très puissant.
D'accord.
Et en pratique, fonctionne pas. Enfin, pas très bien.
Non. Tu peux pas, avec l'effet de monter de niveau, tu sais, tu le bats de niveau 1, tu
ouais,
fais faire un petit speech. Niveau
bah,
2,
le problème,
un petit
c'est
speech.
Que.
Ouais, mais ça veut dire que je lis aussi. Attendez, les gars, je retrouve la page.
Ah mais vous lisez, vous, c'est vrai, vous lisez.
Mais on connaît pas, on n'a pas écrit le bouquin, donc on connaît pas par cœur.
Mais tu crois que
Bop.
Moi je connais mon bouquin par cœur? Vous connaissez plus que moi, bordel.
Ah ouais, mais
plus.
L'histoire de Bop.
Pourtant
elle est
là,
précise,
moi je te le fais, je te le
ouais,
fais.
Mais l'histoire,
moi,
par contre, l'histoire, tu la connais mieux que nous, Rom.
Ouais. Là je te la fais là au pied levé, là je vais faire un.
Mais
monologue,
normal, c'est toi.
Putain, je vais te faire un monologue, moi. Non mais non, c'est même pas vrai.
Enter the acid.
J'y arriverai pas. Non, l'histoire de Bop, en fait, pourquoi je l'ai racontée à cet endroit-là dans le livre, c'est parce que j'espérais que les bon déjà parce que dans un livre ça passe.
Voilà. Oui. Non mais en termes de livre, c'est nickel.
Et le truc, c'est espérer que les joueurs trouvent bah, justement. C'est vrai que
ah,
le
oui,
monologue de fin.
Ah oui, trouve néant dans la lame.
Voilà, ouais. Que éventuellement les Myriadiens et les Sétentriens découvrent des parcelles de l'histoire de Bop dans la cathédrale acide, qui
d'accord.
n'est que décrite brièvement dans
vers
un
vers la fin.
Dans un truc légendaire, non, dans un morceau de légende de description de la Terre aussi, je crois.
Oui, vrai.
Donc voilà, mais c'était, tu vois, il y avait des idées comme ça.
Enfin, c'est ce que je dis, en fait, dans l'idée de mettre des parcelles un peu partout.
Dans le fond,
que ce soit dans la bouche des acides ou dans des endroits acides, hein, dans la chambre de cet entra,
dans le fond,
de façon
que...
métaphorique. Ouais. Mais distille-le quand même un minimum.
Je vois très très bien. L'errata, c'est... L'ordre d'exposition de l'histoire vous pousse à la fin un monologue interminable, plutôt que de pousser plutôt que d'essayer de faire ce monologue interminable qui de toute façon ne passera pas auprès de vos joueurs, distiller les infos d'une manière ou d'une autre. Là, tu dis en faisant dire aux acides la vérité, mais vous pouvez aussi les faire découvrir dans des lieux, voilà. Dans les cathédrales acides, ce genre de trucs. Voilà, ça a été gravé dans la pierre, mais les pierres aussi peuvent mentir. Et voilà, et donc t'as raison, je pense. Ok, c'est ça en ce sens-là, et là je te comprends.
Parce que du coup, les arguments de Bob à la fin ont vachement plus de portée.
Oui, parce qu'ils ont déjà réfléchi, ils sortent pas de nulle part, etc.
Et déjà, la corruption a fait leur œuvre dans l'esprit des joueurs. Ils se sont dit, putain, même. Voilà. Parce que sinon, ça fait vraiment, bon, écoutez, vous débarquez de nulle part, vous nous balancez votre petite histoire, maintenant on doit choisir, ben, merci bien.
Ouais. D'accord, ok. Ouais, ça marche. Je vois ce que tu veux dire.
Il y a un dernier petit errata, parce qu'il nous a un peu surpris. C'est pas grave si vous l'avez pas joué. C'est pas grave. Ok. Mais, normalement, les bugs ne peuvent pas avoir d'enfant avec quelqu'un d'autre qui n'est pas un bug.
Ah oui.
Ouais.
Oui.
Alors c'est pas grave.
Ouais. C'est juste maintenant que si vous avez pas encore eu le truc, ça peut être intéressant.
Oui, ça peut être.
Alors, ça peut créer des dilemmes.
S'il y a des enfants déjà autour de la table avec d'autres bugs dans Cosmos, ça va être passionnant ce qui va se passer. Par contre, il faut le dire. C'est-à-dire que cette contradiction va être au centre de putain de scénar de fou quoi. Je pense que ça va être un truc de fou.
Tu vas découvrir que ta femme était en fait une bug de une saison.
Non, pas forcément, pas forcément.
Autre chose.
Alors forcément. C'est pas dit. Ça paraît logique. Bug. Non. Désolé, on
vient
en arrière. Vas-y.
Ouais. Moi, ça me paraît pas contradictoire qu'il en ait. Mais par contre, c'est qu'il faut bien avoir à l'esprit que l'enfant qu'ils auront, il y a de fortes chances, s'il est viable, que ce soit un bug.
J'aime bien le s'il est viable.
S'il est viable, voilà, c'est ça. Alors, donc, parce
s'il est bien de lui.
On peut découvrir aussi dans Sens Cosmo des trucs ignobles à ce niveau-là.
Mais non, juste la vérité.
Digne d'Alien 4. Mais on peut aussi tout simplement se dire que, en fait, bah non, c'est un bug.
Oui. Voilà. Alors, et maintenant, et que sa mère ne l'était pas. On parle de bug, je vais revenir à Sens Mort pour un petit point. C'est pas précisé dans la base. Ça se devine en lisant les dates.
Attention ton micro.
Anthony Hummer est une bug.
Ah oui,
Anthony évidemment.
Anthony Hummer est une bug.
Oui, c'est pas dit dans les dates.
Non, c'est pas dit. Il y a marqué ça date de naissance, mais c'est genre ah, c'est un clin d'œil pour que le MJ s'en rende compte, mais ça tu t'en rends pas forcément compte quand tu le lis quoi.
C'est comme dans Néant, le coup des qu'on peut s'allier et apprivoiser ses propres camarades pour s'en servir d'armes.
Voilà.
C'est pas
vous n'êtes pas obligé de parce
non, mais putain, je suis désolé.
Peut très bien être né le même jour. Ça arrive des gens qui naissent le même jour et puis qui finalement n'en sont pas. Donc bon, si vous l'avez pas fait jouer comme ça, c'est pas grave, mais ça peut être très intéressant.
Absolument, très intéressant.
Et oui, effectivement, tu disais pour Néant, du coup, qu'ils peuvent s'allier à leurs petits camarades.
Mais oui, ils peuvent
apprivoiser leur propre
podcast sur les Néants. Non, mais en fait, ce que je voudrais dire à propos de Sens, c'est qu'il y a plein de secrets dans le jeu. Il y a des énigmes à résoudre, il y a des systèmes qui rentrent en combinaison. Il y a des tas de choses et ben voilà, il y a aussi des choses à découvrir et moi j'avais pensé mon jeu un peu comme ça. Je sais pas si vous avez vu le Merci Dorian sur les secrets.
Oui.
Ouais.
Voilà, moi, c'est ce que je voulais faire quoi.
Bah,
ce qu'il dit dans oui.
On a fini.
Bon. Bon, mais c'était très bien. J'ai appris beaucoup de choses sur mes propres bouquins. Je suis content.
Je me sens
plus intelligent.
J'espère que ce sera utile aux gens.
À vous, je pense que ce sera très utile effectivement aux gens, ce petit résumé. Je pense qu'il y a plein d'errata qu'on a oubliés qui sont plus d'ordre de l'écriture. Pour cela, encore une fois, je vous rappelle qu'il y a l'excellent podcast avec
Relecture
sans complaisance, exactement, de Natacha, qui est extraordinaire, où elle a été vraiment au fond des choses. Elle a été chercher, se documenter. C'est génial. Et donc pour le reste, les errata plus techniques, il y a ce podcast maintenant. Et lorsque Cosmo sortira, on essaiera de peut-être.
On brûlera ce podcast.
On l'oubliera non, parce que
forcément.
Tout sera clair dans Cosmo.
Pas forcément.
Vous aurez aussi
je
nos
prétends
conseils,
pas.
Nos petits conseils perso.
Je prétends pas. Voilà. Et ça c'est bien aussi les petits conseils perso quand même. Il y a d'autres conseils et d'autres trucs que d'autres pourraient dire. Par exemple comme Jérôme qui a introduit le personnage
Mettez
de sauveuse, etc. Mais ça, c'est peut-être le thème d'un autre podcast.
Ah,
je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, à bientôt tout le monde. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
Non, fais pas ça.
Tu vas me péter les oreilles. Allez, portez-vous bien. Bonne semaine à tous.
Jouez
portez-vous
bien.
Jouez bien. C'est ça qui compte.
Sensez bien.